Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Il est 8h.
Je suis triste, je renonce à des années qui sont charnières dans ma vie. Donc oui, je me sens plus fragile que ce que j'étais avant, alors que j'ai toujours eu un mental d'acier, quoi.
Le mental et le moral fragilisés des étudiants assignés à résidence depuis octobre et sans perspective claire de retrouver les amphis, les profs et puis la vie étudiantine. Les présidents de fac appellent à un retour au présentiel en urgence, au moins pour les premières années. 9 minutes de tabassage. Les images vues 11 millions de fois en 24 heures rien que sur Twitter font réagir les grands noms du sport. Elles forcent Gérald Darmanin a dénoncé le comportement de ceux parmi les policiers qui déconnent. Information Europe 1, le président Emmanuel Macron lui-même, choqué, a explicitement demandé des sanctions très claires. Dans ce journal, Donald Trump prêt à quitter la Maison-Blanche, non sans comparer le système électoral américain à celui d'un pays du tiers-monde. L'industrie allemande, grande gagnante de la course au vaccin, ou comment la Deutsche Qualität permet en ce moment de créer des emplois. Et puis, ils étaient 11 hier soir à s'appeler Maradona, toute l'équipe de Naples revêtue du maillot numéro 10 pour un match hommage à la légende de la ville.
Le détail des aides aux entreprises, la réouverture des commerces et bien sûr sa réaction après les deux enquêtes judiciaires par lesquelles il est visé. Alain Griset, ministre délégué en charge des PME, répond aux questions de Sonia Mabrouk. C'est à 8h15 sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Certains d'entre eux ont à peine effleuré les bancs de la fac depuis cet été. Les 2 millions d'étudiants français ont vécu un confinement précoce et qui tend à se prolonger. Emmanuel Macron n'envisageant pas de reprise des cours physiquement dans les universités avant le mois de février.
Les jours heureux sont donc très loin pour eux. D'autant que, imaginez, vivre au quotidien dans une chambre d'étudiants et tenter de suivre les cours sur des écrans, cela demande une sacrée détermination, comme on va le voir ici à Strasbourg avec Arthur Mbaché.
Donc un contrat de session. Hein,
une tasse de café tiède, une assiette pas débarrassée et le prof de Sciences Po sur l'écran de l'ordinateur dans la petite cuisine de la colocation de Malena, étudiante en distanciel, étudiante abattue.
Je me sens pas bien, je me sens comme dans un bocal. Et ce qui est difficile, c'est que moi j'ai l'impression de pas faire mon master parce que j'ai du mal à suivre. J'ai toujours été une bonne élève et là je pense que ça fait 2 semaines que j'ai pas pris de notes dans un cours. Quoi. Ouais, je suis triste, je renonce à des années qui sont charnières dans ma vie. Donc oui, je me sens plus fragile que ce que j'étais avant, alors que j'ai toujours eu un mental d'acier, quoi.
Pour ne pas flancher dans les 9 mètres carrés de sa chambre d'étudiante, Fanny, elle, s'astreint à une discipline quasi monacale.
Donc le réveil le matin, toujours la même heure. Moi, c'est 7h30 le matin. S'habiller, ne pas rester en pyjama pour ne pas trop traîner. Le petit café, toujours. Et après, c'est en Skype avec mes camarades. C'est agréable de voir des gens par caméra, de les voir bosser aussi, ça motive.
Vous bossez en silence, voilà. Chacun dans son coin, mais en pouvant vous regarder les uns les autres.
Exact.
Et après 2 à 3 heures de travail, la pause, 20 minutes, Netflix, une série, un épisode, pas deux. Strasbourg, Arthur Mbaché, Europe 1.
Bonjour Virginie Riva.
Bonjour.
Les présidents d'université évoquent la détresse morale des étudiants qui tuera plus à terme que le virus. C'est ce qu'ils écrivent dans une tribune.
Et ils proposent des solutions pour rouvrir au plus vite.
Oui, parce qu'il y a urgence, disent-ils. Risque de décrochage massif, détresse psychologique, on vient de l'entendre. Impossible, selon eux, d'attendre le 20 janvier pour faire un point sur la situation sanitaire. On a écouté cette étudiante abattue en master. Imaginez les premières années, complètement perdues. Leur niveau est en chute libre. Ils ne comprennent pas le fonctionnement du travail universitaire. Depuis mars dernier, ils sont complètement désocialisés, isolés, alors que ça devrait être les années de tous les possibles, comme le disait également Malena dans le reportage. Conséquence, les demandes d'aide psychologique se sont multipliées. C'est 3 fois plus selon les remontées des services de santé universitaires. Pour cette raison, les présidents d'université proposent soit de privilégier le retour en 100% présentiel des plus fragiles, donc les premières années, soit de prévoir une jauge de 50% pour toutes les promotions, et cela dès la mi-janvier, c'est-à-dire dès le passage au deuxième semestre.
Et alors Virginie, quelles sont les réponses du gouvernement ?
Le gouvernement débloque des aides en attendant de recevoir les présidents d'université. Déjà, pour lutter à la fois contre le décrochage et contre les problèmes économiques des étudiants, le Premier ministre a annoncé la création de 20 000 jobs étudiants, des contrats de 10 heures par semaine pour 4 mois signés par les universités pour faire du soutien pédagogique aux premières années. Pour lutter contre l'isolement, 1 600 étudiants vont être embauchés par le CROUS pour remonter le moral de leurs camarades dans les résidences universitaires. Et puis, pour faire face à la précarité étudiante, le gouvernement double les aides d'urgence pour les boursiers comme pour les non-boursiers, des aides pour se nourrir, pour se loger, avec en plus pour les 740 000 boursiers une prime de 150 euros qu'ils toucheront le 1er décembre.
Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe 1.
J'ajoute à propos des aides qui avaient été annoncées, elles, mi-octobre par le président de la République, 150 euros pour les bénéficiaires des APL, jusqu'à 550 euros pour une famille. Elles sont versées aujourd'hui. C'est ce vendredi également que démarre la collecte nationale des banques alimentaires, dont vous verrez les bénévoles dans de nombreux supermarchés lorsque vous ferez vos courses jusqu'à dimanche.
Violences inadmissibles, stop au racisme. La réaction de Kylian Mbappé sur Twitter hier soir qui, à l'image d'Antoine Griezmann, Samuel Umtiti ou du basketteur Rudy Gobert, réagissent choqués par les images de ce que l'on peut qualifier de tabassage.
C'était samedi soir à Paris, un homme frappé, matraqué par des policiers qui ont dit vouloir l'interpeller car il ne portait pas le masque. La scène est filmée par une caméra de surveillance des locaux du studio de musique dont il est producteur. Hier soir sur France 2, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé la révocation des quatre policiers si les faits étaient confirmés par la justice.
Je voudrais dire aux policiers et aux gendarmes que moi je les soutiens, mais lorsqu'il y a des gens qui déconnent, ils doivent quitter l'uniforme de la République, ils doivent être sanctionnés, ils doivent être punis par la justice.
Bonjour Jean-Rémy Baudeau.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Depuis quelques jours, certains s'interrogeaient sur le silence d'Emmanuel Macron à propos de la sécurité. Eh bien, vous nous le révélez ce matin sur Europe 1, le chef de l'État a repris personnellement le dossier en main.
Oui, quand hier matin il a découvert la vidéo de la violente intervention policière sur le producteur de musique, Emmanuel Macron est rentré dans une colère noire. Le président était très choqué, rapporte un témoin. Il appelle Gérald Darmanin, mais les deux hommes se rejoignent car une réunion était prévue depuis la veille sur le fameux article 24 de la loi sécurité globale. Mais évidemment, dans ce contexte, la vidéo se retrouve au cœur des discussions. Et dans cette réunion, eh bien, le chef de l'État se montre très ferme. Dans un souci d'apaisement, il demande des sanctions très claires contre les policiers concernés. Il convient d'ailleurs que le ministre s'exprimera aux 20h.
Et c'est la deuxième fois en quelques jours que Gérald Darmanin est invité à mieux tenir ses troupes.
Oui, cette semaine, Emmanuel Macron lui avait déjà demandé des explications sur la gestion du maintien de l'ordre après la dispersion du camp de migrants à République. Le ministre a dû revoir sa copie sur la loi sécurité globale, mais c'est Emmanuel Macron qui sent monter la pression sur lui. Sa majorité est en feu et au sein même du gouvernement, la séquence crée des remous. Selon nos informations, hier soir, sur l'un des groupes de discussion des ministres, les débats ont été agités, aile droite contre aile gauche. Tard dans la nuit, un membre du gouvernement m'a même confié « Notre souci sur la sécurité, c'est qu'on n'a pas de ligne structurée et on le paye ». Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, qui a fait de la lutte contre les régimes illibéraux comme la Hongrie, son cheval de bataille, eh bien, il se retrouve accusé lui-même de dérive autoritaire. Le président sur une ligne de crête, il a besoin de Gérald Darmanin pour afficher de la fermeté et capter des soutiens à droite. Mais si ce dernier va trop loin, il risque de perdre son électorat plus modéré.
Jean-Rémy Baudeau, du service politique d'Europe 1.
Vous parliez d'Emmanuel Macron. Devra-t-il faire face, comme François Hollande, à une affaire comme celle de Jacqueline Sauvage, qui avait été graciée par le président après des condamnations de la prison ? Hier, à Rouen, une femme de 42 ans, Alexandra Richard, a été condamnée à 10 ans d'emprisonnement après avoir tué son conjoint violent. Elle plaidait un accident ayant tiré avec un fusil de chasse sur celui qui la menaçait physiquement.
8h08 sur Europe 1. Aux États-Unis, cela faisait des semaines qu'il n'avait pas répondu à la volée à des questions de journalistes. Donald Trump a fait un pas de plus vers un départ de la Maison Blanche.
Même si vous allez l'entendre, il est très loin encore de reconnaître sa défaite.
Bien sûr, je le ferai. Bien sûr que je le ferai, vous le savez. Mais je pense qu'il se passera beaucoup de choses d'ici le 20 janvier, beaucoup de choses. Des fraudes massives ont été découvertes. Nous sommes comme un pays du tiers-monde. Aujourd'hui, nous utilisons du matériel informatique qui peut être piraté.
Un pays du tiers-monde. Les mots de Donald Trump hier.
Un zoom ce matin sur le « Made in Germany ». Est-ce l'industrie allemande qui va nous sauver de la pandémie de Covid ?
Oui, c'est toute une chaîne de production qui se met en place pour fournir au monde entier en un minimum de temps les doses du vaccin. Notamment des PME allemandes, à elles seules, elles contribuent presque à relancer la machine économique. Hélène Kohl.
200% de production en plus en 2 semaines. Les congélateurs de l'entreprise Binder, basée dans le sud de l'Allemagne, peuvent descendre à moins 90 degrés. Alors pour préparer le stockage du vaccin, les régions allemandes ont passé commande dès le printemps. Et maintenant, le reste du monde frappe à la porte. Les 450 salariés font tous des heures supplémentaires, explique le patron Peter Michael Binder.
Nous n'allons pas nous lancer dans la construction d'une nouvelle usine qui ne serait prête que dans 2 ans. Et par conséquent, c'est à court terme qu'il faut trouver des moyens de produire plus.
Les frigos surpuissants coûtent 20 000 euros pièce et peuvent contenir jusqu'à 40 000 doses de vaccins conditionnées dans des flacons qui sont eux aussi made in Germany. en verre ultra-résistant, le borosilicate inventé il y a 130 ans par un chimiste de Mayence. Et depuis, le brevet n'a pas changé, précise le porte-parole de Schott, Salvador Ruggiero.
C'est notre recette, un verre très pur, de qualité maximale, afin qu'aucune particule extérieure n'entre en contact avec le vaccin.
Ces flacons seront utilisés pour conditionner les trois quarts des doses de vaccins du monde entier. Schott compte en vendre 2 milliards en quelques mois. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
8h10, vous restez bien avec nous. Sur Europe 1, dans un instant, un hommage.
Celui par le football de la ville de Naples à son mythe, Diego Maradona.
A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Diego Maradona enterré hier soir dans la banlieue de Buenos Aires au terme d'une veillée funèbre parfois chaude, un peu tendue, quelques bousculades. Et puis la deuxième patrie de Diego Maradona, c'était Naples. 315 buts en 7 ans sous les couleurs du Napoli. Le club jouait hier soir en Europa League. Ambiance de feu au sens propre aux abords du stade avec des milliers de torches. Blandine Hugonnet.
Dans la rue, tout le long des gradins, des dizaines de fumigènes rouges illuminent la nuit pendant de longues minutes. Pour ce dernier adieu à leur roi, les tifosi sont venus par centaines au pied de ce stade napolitain devenu mythique grâce à Maradona.
Il nous a rendu notre fierté, on le soutiendra toujours, c'est notre rédempteur, San Diego Maradona.
Naples, ça a toujours été la passion du foot, donc ce stade c'est devenu notre seconde maison comme c'était le cas pour Maradona.
Et devant les grilles du stade, un parterre de maillots bleus, de dessins ou de peluches éclairés par des bougies. Avec ses fils, Simone tenait à venir ici déposer son écharpe du club.
Je l'ai vu jouer dans ce stade Maradona. Donc j'ai eu besoin de venir ici pour célébrer ce mythe. Je suis sûr que lui aussi aurait aimé faire la fête avec nous.
Mais à 21h pile, pétard, chant, tout s'est arrêté pour une minute de silence total à l'extérieur comme à l'intérieur du stade. Sur la pelouse, toute la squadra du Napoli a enfilé le légendaire maillot numéro 10, floqué du nom de Maradona en hommage. Naples, Blandine Gonnet, Europe 1.
Votre week-end sera peut-être consacré à une balade, enfin dans une limite plus confortable, de 20 km, plus de 3 heures, ou bien peut-être à faire des courses de Noël dans des commerces rouverts. Attention, un client pour 8 mètres carrés.
Mais si vous préférez éviter la foule, les bonnes affaires se seront sans doute plutôt sur Internet avec cette vente aux enchères, certains des plus beaux vinyles des 70 000 de la discothèque d'Europe 1. Angèle Châtelier.
Là, vous avez par exemple cet album, qui est un album de Michel Berger. Ce disque est très très difficile à trouver.
Les bureaux à Richelieu, où se déroulera la vente, sont déjà encombrés de cartons de vinyle. Patrick Debureau, le commissaire priseur, tient dans ses mains l'une des pièces majeures. Puzzle, le premier album de Michel Berger. Un disque rare, sans parole, instrumental, qui mêle musique classique et rock. Autre vinyle prestigieux, disposé par-dessus les autres, un album du saxophoniste Lester Young. Patrick Debureau a classé 3000 vinyles, environ 20% de la discothèque d'Europe 1, pour leur donner une seconde vie chez de simples amateurs ou de vrais collectionneurs.
Une discothèque d'Europe, c'est une sorte de grotte. Il y a des choses qui sont des pépites. Hein. Si vous prenez par exemple Zouzou, qui était une actrice, chanteuse et mannequin, son surnom était lié à son zézément. Et donc ça, c'est une icône des 60s. C'est vraiment un trésor.
Un patrimoine sonore inestimable qui mélange tous les genres, des artistes de soul, de la chanson française, des bandes originales de films et puis des disques de grands groupes de rock aussi, comme les Doors, The Cure. Des vinyles qui n'attendent que leur nouveau propriétaire, peu importe leur budget. La mise à prix va de 10 à 400 euros.
Et ça se passe demain, 14h, sur art-richelieu.fr.
Merci François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1, 8h13. Nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité.
Europe Matin, le 7-9.